Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Aurélie. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. L'audiovisuel public est-il la honte de la République ? L'expression serait d'Emmanuel Macron, selon un article de l'Express.fr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des partisans d'un vrai Big Bang et d'une fusion entre radio et télévision. Nous ferons le point sur ce dossier avec Abdellah El Idrissi. Plume élégante, esprit brillant, l'académicien Jean d'Ormesson s'est éteint la nuit dernière. Il était très aimé des Français, autant pour sa gourmandise de la vie que pour son œuvre littéraire. L'Union européenne dresse sa liste noire des paradis fiscaux. 17 juridictions, parmi lesquelles la Corée du Sud, les Émirats arabes unis ou encore la Tunisie. En revanche, aucun pays membre de l'UE. Le Premier ministre libanais, Saad Hariri, revient sur sa démission. C'est le soulagement à Beyrouth et à Paris, où une réunion de soutien au Liban se tiendra vendredi. L'article est court, mais il a vite fait sensation sur la toile. Son titre, pour Macron, l'audiovisuel public est la honte de la République. Sur le site de l'Express.fr, Corinne Laïc écrit ceci. Recevant lundi les députés de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, le chef de l'État a prononcé une violente diatribe contre l'audiovisuel public. Et elle cite donc cette expression, honte de la République. Mais Gabriel Attal, chef de file des députés de la majorité au sein de la Commission de la culture, était hier soir à l'Élysée et selon lui, Emmanuel Macron n'a pas tenu ses propos. Gabriel Attal.
Ce que je peux vous dire, c'est que les propos qui sont rapportés par la presse n'ont pas été prononcés par le président de la République. Et moi, j'étais présent à cette réunion et en tant que député, je n'ai pas vocation à commenter des bouts de phrases rapportés, déformés par la presse. Le président de la République a eu un constat sévère sur l'audiovisuel public, mais les propos tels qu'ils sont rapportés par la presse n'ont pas été prononcés par le président de la République. Il nous a demandé de nous emparer de la question en tant que parlementaire pour le réformer, pour lui garantir une meilleure gouvernance, pour lui permettre de mieux assumer ses missions, de mieux s'adapter à la transition numérique, de toucher les personnes qui n'ont pas accès à la culture et à l'éducation. C'est ça qui nous attend. C'était un constat sévère sur la gouvernance de l'audiovisuel public et évidemment pas sur les rédactions comme je peux le lire sur Twitter et sur les réseaux sociaux.
Quoi qu'ait dit exactement Emmanuel Macron, la pression est forte en ce moment sur les PDG de l'audiovisuel public. Ce matin, Abdellah El Idrissi, les propos attribués au président sont arrivés à leurs oreilles alors que les PDG de France Télévisions et de Radio France participaient à un colloque à l'université Panthéon Assas, un colloque portant sur les stratégies des groupes audiovisuels publics français. Ce devait être un moment de réflexion de fond avec des universitaires. Finalement, les dirigeants des radios et télévisions publiques ont surtout encaissé des coups.
Delphine Arnot et Mathieu Gallet étaient venus parler de marque d'entreprise, de marketing. Mais la phrase qu'aurait prononcée le président de la République s'est invitée dans le débat avec une question d'une personne dans le public à Delphine Arnot. Voici sa réponse quelque peu gênée.
Je peux pas avoir de réaction, j'y étais pas, je trouve ça curieux.
Il y avait 70 personnes, hein, quand même, donc c'est très bien.
Vous y étiez ?
J'ai pas de commentaire à faire.
Mathieu Gallet a également refusé de commenter. Mais pour les deux patrons, l'épreuve s'est prolongée quand ils ont assisté à l'intervention de la présidente de la Commission des affaires culturelles du Sénat, Catherine Morin-Desailly, qui a détaillé sa vision du financement des entreprises de l'audiovisuel public, notamment sur les efforts demandés.
Les mutualisations doivent être plus importantes, rapprochement des rédactions, fusion des services supports, diminution à terme des masses salariales, remise en cause de certains services. Cet effort est essentiel, car l'audiovisuel public a besoin de convaincre qu'il n'est pas un puissant fonds consommant toujours plus de crédits.
Et ce discours a trouvé un certain écho dans le public. Nathalie Sonac, universitaire et membre du CSA, partage aussi l'idée qu'un Big Bang de l'audiovisuel, à l'heure du numérique, est nécessaire.
Ça fait vraiment de très nombreuses années que malheureusement le système est trop sclérosé. Et aujourd'hui, on voit bien que le cadre n'est plus du tout compatible avec le monde de l'audiovisuel. C'est certainement ce décalage qu'on voit. Après, malheureusement, effectivement, il risque d'avoir du sang et des larmes, mais parce que ça fait 20 ans que rien ne bouge et que tout est sclérosé.
Finalement, ce matin, tous les acteurs présents étaient d'accord sur le diagnostic. Il faut que l'audiovisuel public se modernise, mais les divergences concernent le remède. Ce matin, le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, a d'ailleurs mis en garde sur la méthode employée.
Si le cap, c'est seulement un cap économique, voire budgétaire, je peux vous dire que ça se passera forcément pas très bien, en tout cas au sein de nos entreprises. Et je peux témoigner, quand on commence par attaquer seulement la logique budgétaire, la transformation, elle ne se fera pas. Donc si on veut que la transformation se fasse, elle doit se projeter dans le sens. Quel sens on souhaite donner aux missions du service public à l'heure du numérique ?
Le gouvernement devrait justement préciser le cap qu'il veut fixer pour l'audiovisuel public en début d'année 2018.
Et pour conclure ce dossier média, une citation cette fois de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de la France Insoumise réclame la création d'un tribunal professionnel des médias pour sanctionner les menteurs, les tricheurs, les enfumeurs. Il accuse les journalistes Léa Salamé, François Langlais et Nathalie Saint-Cricq d'avoir organisé jeudi dernier un traquenard médiatique sur France 2 lors de l'émission politique dont il était l'invité. Jean-Luc Mélenchon joint le geste à la parole. Il lance une pétition pour la création d'un conseil de déontologie du journalisme qui serait un recours pour faire respecter le droit à une information objective. Les écoliers français ne lisent pas assez bien au classement de la dernière enquête PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study. Les élèves français de CM1 sont classés 34e sur 50 en compréhension en lecture. Pour le ministre de l'Éducation nationale, ce ne sont pas des résultats dignes de notre pays, on ne peut pas s'y résoudre. Et Jean-Michel Blanquer propose des mesures pour aider les enseignants. Il veut notamment s'appuyer davantage sur les manuels de lecture, Hakim Kasmi.
Aurélien, Jean-Michel Blanquer le reconnaît, il n'a pas de baguette magique, en attendant pour redresser la barre, plusieurs mesures vont être mises en place, à commencer par exemple par la généralisation du dédoublement en CP et en CE1, en REP et en REP+, pour l'instant c'était uniquement en REP+, en CP, car c'est là que les difficultés les plus grandes se concentrent. Les évaluations qui sont devenues obligatoires en CP depuis la rentrée le seront également en CE1 dès l'année prochaine, mais le ministre de l'Éducation veut également réformer les manuels scolaires, notamment en CP.
Nous sommes dans une institution de savoir, dans une institution de science. Et donc nous devons avoir l'esprit scientifique. Or, il y a des études qui nous disent des choses avérées, prouvées sur certains sujets qui concernent l'école. C'est le cas en matière de manuels. Il y a des études qui montrent que certains manuels sont plus efficaces que d'autres, que certaines méthodes sont plus efficaces que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir un seul manuel ou une seule méthode. Ça veut dire qu'il y a une série de bonnes méthodes et puis d'autres qui sont moins bonnes. Ne pas dire cela, faire semblant d'ignorer ce que je viens de dire, c'est d'une certaine façon de la non-assistance à personne en danger.
Alors longtemps, les mots sont forts et ne passent pas du tout chez une grande partie des enseignants qui dénoncent la méconnaissance de la part du ministre. Pour Francette Popineau, co-secrétaire du SNIPP, il ne faut pas réduire les problèmes de lecture au simple manuel scolaire.
Il ne faudrait pas laisser penser que nous choisissons les manuels un petit peu selon l'air du temps, en faisant nos courses dans les grandes surfaces. Les manuels nous sont recommandés, évidemment, par les corps intermédiaires que sont les inspecteurs et les conseillers pédagogiques. Donc, tout cela est pensé. Hein. Donc, sans doute que tous les manuels ne se valent pas, mais en tout cas, ils sont réfléchis par les équipes pédagogiques.
Enfin, rappelons que 20% des élèves qui arrivent en 6e ne maîtrisent pas assez l'écriture et la lecture.
Hakim Kasmi, merci. L'amour est un plaisir, Dieu, sa vie, son œuvre, presque rien sur presque tout. C'est une chose étrange à la fin que Le Monde, 4 titres parmi plus de 40 livres, mais qui dévoile à eux seuls quelques facettes de la personnalité de Jean d'Ormesson. Le romancier est mort cette nuit, chez lui, d'une crise cardiaque, à 92 ans. Jean d'Ormesson avait été élu en 1973 à l'Académie française. Il était entré dans la Pléiade en 2015. Esprit brillant, il était aussi pétillant, gai, ce qui en faisait une personnalité très appréciée des Français. C'était d'ailleurs l'écrivain le plus fréquemment invité chez Bernard Pivot. C'est ce dont se souvient Ariane Chemin, journaliste au Monde.
Il est formidable sur les plateaux d'Apostrophe. D'abord, il a l'œil qui pétille, la paupière qui vrille, ce bleu qui vous regarde comme si vous étiez en face de lui, la personne la plus importante du monde, l'humour aussi, et puis surtout cet art de la conversation qui est un art un peu désuet. Et aujourd'hui, il y a peu de gens comme ça qui sont capables de parler des heures en faisant des bons mots, comme on dit, pas des blagues. Et ça, c'est très français et c'est un personnage. D'abord parce qu'il adore ça, il adore la lumière. Ensuite, parce que c'est quelqu'un qui a refusé de vieillir. Donc à chaque époque, il s'est adapté à la décennie, je dirais. Par exemple, c'est drôle de savoir que Julien Doré s'est fait tatouer sur l'épaule le nom de Jean d'Ormesson. Il est apparu dans quelques séries. Il adorait faire jeune et parler jeune. Et c'était incroyable, d'ailleurs, cette forme de jeunesse qu'il avait et qui tranche avec cette voix qui est une voix qu'on ne possède plus, même au cinéma. C'est-à-dire que cette voix avec des chapeaux sur les A qui signe au fond son extraction sociale. Enfin, c'est un noble. Et je me souviens de quelqu'un qui me disait, au fond, ce peuple français qui est le plus égalitariste du monde, tout d'un coup s'est dit, on va aimer Jean d'Ormesson parce qu'on va expier les crimes de la Révolution. Il y a un peu ça.
On aime l'aristocrate.
On aime l'aristocrate sympa et on se dédouane inconsciemment de ce qu'on a pu lui faire subir à la fin du XVIIIe siècle.
C'était un homme à femme.
Bien sûr, comme s'il fallait aussi que tout le monde comprenne qu'il était cet homme du XVIIIe qui n'a pas peur d'aimer plusieurs femmes. Enfin, c'est un homme d'une autre époque, parce que même sa façon de parler des femmes aujourd'hui, elle est pour quelqu'un de notre génération, elle est choquante. Mais lui, ça ne le gênait pas du tout. Dans ses premiers livres, d'ailleurs, qu'il ne voulait pas qu'on réédite à cause des phrases qu'il pouvait tenir sur les femmes.
Ses personnages, alors.
Ou lui-même. Ou lui-même. Et je me souviens d'un déjeuner que j'avais fait avec lui dans son petit hôtel particulier de Neuilly, et j'avais osé poser cette question. m'avait dit, vous savez, comme on dit, les femmes, c'est comme la Légion d'honneur, ça ne se réclame pas, ça ne se refuse pas, ça ne s'arbore pas. Mais je n'avais rien dit, mais c'est vrai que ça prouve qu'on n'était pas de la même génération et ça m'avait stupéfaite.
La journaliste Ariane Chemin au micro de Tara Schlegel. J'ai beaucoup ri, j'ai ri du monde, des autres et de moi. Rien n'est très important, tout est tragique. Tout ce que nous aimons mourra et je mourrai moi aussi. La vie est belle, écrivait Jean d'Ormesson dans son livre C'était bien, paru en 2002. Un livre dont il avait lu les premières pages à voix haute pour l'association Lire dans le Noir. Écoutez la voix si reconnaissable de Jean d'Ormesson.
Longtemps, je me suis demandé ce que j'allais faire de moi et des quelques saisons que des puissances inconnues ou peut-être personne, avait eu la bonté de m'accorder dans ce coin improbable de l'improbable univers. Voilà une question qui ne se pose plus. L'affaire est dans le sac, les jeux sont faits, rien ne va plus. Les dés roulent encore, mais de plus en plus vite, ou de plus en plus lentement, comme on voudra. Leur course se ralentit, leur course s'accélère. La fête tire déjà vers sa fin. J'en ressens du regret et une sorte de soulagement. C'était bien, vraiment bien. Et ça va bien comme ça.
Extrait du livre audio « C'était bien » édité par l'association Lire dans le Noir dont Jean d'Ormesson a été le parrain. Donald Trump a bien l'intention de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. C'est ce que confirme la présidence palestinienne après un entretien téléphonique entre le président américain et Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne l'a mis en garde contre les conséquences dangereuses d'une telle décision sur le processus de paix. Apparemment sans succès, Donald Trump poursuit pour l'instant ses échanges téléphoniques. Saad Hariri est revenu sur sa décision. Le Premier ministre libanais ne démissionne plus. L'annonce de son départ, faite depuis l'Arabie Saoudite le 4 novembre, avait fait craindre une nouvelle période d'instabilité politico-économique dans le pays. Aujourd'hui, il y avait Conseil des ministres à Beyrouth et l'ambiance était au soulagement, Omar Waman.
Saad Hariri avait laissé entendre à plusieurs reprises qu'il était prêt à revenir sur sa décision, mais à condition que le Hezbollah, allié de l'Iran et ennemi des pays du Golfe, fasse des concessions. Après de nombreuses réunions et un dernier conseil des ministres ce matin, les différents partis sont parvenus à un accord qui permet de sortir de cette crise qui empoisonne la vie des Libanais depuis un mois. Saad Hariri, fort d'une popularité sans précédent et soutenu par la communauté internationale, a pu dicter les terme d'un nouveau compromis. Pour préserver sa stabilité, le Liban s'engage à appliquer une politique de neutralité dans les différents conflits de la région. Le Hezbollah, seul parti libanais, officiellement engagé en Syrie et en Irak et officieusement au Yémen, pourrait donc progressivement retirer ses combattants de ses terrains de guerre. Autre condition pour un retour à la normale, la milice chiite devra également cesser ses campagnes médiatiques hostiles aux pays arabes. Mais ce nouvel accord ne règle pas la question de fond qui est le cœur du problème qui oppose le Liban à ses voisins, à savoir le désarmement du Hezbollah réclamé depuis des années par une grande partie des Libanais.
Omar Waman, correspondant de France Culture au Liban. Et une réunion du groupe international de soutien au Liban est organisée vendredi à Paris. Saad Hariri sera présent. Il s'entretiendra avec de hauts responsables de la communauté internationale, dont le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson. Sous la pression des Panama Papers, l'Union européenne en avait fait la promesse. Il y a 18 mois, elle allait faire l'inventaire des paradis fiscaux. Cette liste noire a été présentée aujourd'hui par les ministres des Finances de l'Union. Elle recense 17 juridictions. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, estime que l'Union européenne a fait preuve de courage politique, mais aucun membre de l'Europe ne figure sur la liste.
Oui, alors on savait déjà que ce serait le cas. Cette liste noire est une liste des pays tiers et dès le départ, il était prévu que les pays de l'Union européenne n'y règlent pas leurs comptes en public. De toute façon, sur ce sujet, comme sur tous les sujets fiscaux, la règle de l'unanimité s'imposait. Donc jamais on n'aurait pu voir sur une liste noire européenne le Luxembourg, Malte, l'Irlande, les Pays-Bas ou même une île dépendant de la couronne britannique, car le Royaume-Uni fait toujours partie officiellement des pays de l'Union européenne et à ce titre, il participe participe à toutes les réunions et peut utiliser, il pouvait là utiliser son droit de veto pour l'élaboration de cette liste. Alors qui y trouve-t-on ? On retrouve des petites îles régulièrement citées, Samoa, l'île de Guam, les îles Marshall, les Palaos, Sainte-Lucie, Trinidad et Tobago, la Barbade. On trouve aussi des pays moins cités dans cette catégorie paradis fiscaux, la Corée du Sud, la Namibie, la Mongolie, la Tunisie et des pays en revanche très habitués comme Bahreïn, le Panama, les Émirats Arabes Unis. Alors vous remarquez qu'il manque les îles Caïmans, les Bermudes, Guernesey. Eh bien c'est parce que ces pays font partie d'une liste grise qui compte celle-là 47 pays. On y trouve aussi Hong Kong, le Qatar, Taïwan, la Turquie, la Suisse, la Thaïlande, le Maroc, je ne vais pas tous les citer. Pour passer dans la liste grise, ces pays se sont engagés à changer le point de leur législation ou de leur coopération qui posait problème à l'Union européenne avant la fin 2018 ou 2019, selon qu'ils sont en développement ou pas.
Et alors, quelles sont les sanctions prévues pour les juridictions figurant sur la liste noire ?
Alors, le fait de figurer sur une liste des juridictions non coopératives devrait avoir un effet dissuasif, écrivent les ministres des Finances dans le communiqué final. Alors, un gel des fonds européens est prévu, ce qui pourrait avoir un effet sur la Tunisie, par exemple, mais moins sur la Corée du Sud, qui n'en touche pas. Ensuite, c'est à chaque pays de définir des sanctions dissuasives. Alors, il est quand même conseillé d'appliquer au moins l'une des actions suivantes. Renforcer les contrôles de certaines transactions, auditer les contribuables logés dans ces pays ou utilisant des structures qui en proviennent, mais attention, hein, rien d'obligatoire aux États membres donc de dire maintenant ce que chacun compte faire, unis qu'ils sont dans leur diversité.
Merci Marie Viennot. L'invitée du journal de 22h sera Manon Aubry de l'ONG Oxfam. Elle reviendra sur ce sujet. La Russie, elle aussi, publie une liste de médias désormais classés agents de l'étranger et susceptibles d'être sanctionnés en cas de non-respect des règles. La Russie s'en était d'abord prise aux ONG étrangères. Depuis 2012, certaines ont dû réduire leurs activités, voire quitter le pays. Le Kremlin justifie ces dispositions comme une réponse aux mesures prises par les États-Unis à l'encontre de la chaîne internationale publique Russia Today. Et à 3 mois de l'élection présidentielle, le ministère russe de la Justice a logiquement visé en priorité les médias américains. La correspondance de Claude Bruyot à Moscou.
La présence de Voice of America dans cette première liste de médias classés agents de l'étranger en Russie n'est pas une surprise, car la station est financée par le Congrès américain et correspond tout à fait à l'objectif recherché par le Kremlin, à savoir répondre aux États-Unis. Pour ce qui concerne Radio Free Europe maintenant, il faut cette fois intégrer le fait que pas moins de 7 organes de presse sont gérés en Russie par la station internationale, pour l'essentiel des radios régionales et sites d'information, représentant par exemple les points de vue des Tatars de Crimée ou encore des organes de presse indépendants dans le Caucase Nord ou jusqu'en Sibérie. Obligation leur est faite à tous de mentionner le terme « agent de l'étranger » pour toute leur production diffusée. Quant à leur mode de financement et leurs organigrammes dirigeants, là aussi, ils devront être rendus publics. En cas de non-respect de ces règles, la loi russe prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 40 000 euros. Des dispositions qui pourraient s'assouplir, laissant entendre le pouvoir, si les États-Unis décident de revenir sur le classement de Russia Today en tant qu'agent de l'étranger.
Claude Bruyot à Moscou. Les couples homosexuels vont pouvoir se marier en Autriche. La Cour constitutionnelle autrichienne ordonne l'ouverture du mariage aux couples de même sexe au plus tard en 2019. L'Autriche va devenir ainsi le 16e pays européen à autoriser le mariage homosexuel. Précision de notre correspondante à Vienne, Isorias.
Tout est parti d'une plainte d'un couple de femmes qui voulait se marier à Vienne. Devant le refus des autorités, elles saisissent la justice et c'est finalement la Cour constitutionnelle autrichienne, plus haute juridiction du pays, qui leur a donné raison. La Cour estime que l'interdiction du mariage homosexuel viole le principe de l'égalité et de la non-discrimination des personnes et ordonne en conséquence l'ouverture du mariage aux couples de même sexe au plus tard au 1er janvier 2019. Alors pourquoi la Cour a-t-elle estimé que cette interdiction était discriminante ? Eh bien tout simplement parce que depuis 2010, un contrat d'union civile existe en Autriche uniquement pour les personnes homosexuelles. Mais aujourd'hui, ce contrat garantit quasiment les mêmes droits que le mariage. Dès lors, la Cour a estimé qu'il n'y avait plus lieu d'exclure les homosexuels du mariage, sinon ce serait discriminant. La communauté LGBT se réjouit d'une telle décision, d'autant que les deux parties qui négocient actuellement la future coalition coalition, les conservateurs et l'extrême droite, n'étaient pas favorables au mariage homosexuel. Il y avait donc peu de chances qu'une telle décision vienne du pouvoir politique.
Aux États-Unis, une affaire de gâteau de mariage est remontée jusqu'à la Cour suprême de Washington. En 2012, un pâtissier avait refusé la commande d'un couple homosexuel au nom de sa foi chrétienne. Leur vendre des croissants, d'accord, mais un gâteau de mariage, pas question. Le couple a donc porté plainte pour discrimination. Les avocats du pâtissier, eux, invoquent la liberté artistique. L'audience devant la Cour suprême se tenait aujourd'hui. Elle doit rendre sa décision d'ici fin juin 2018. Le temps sera brumeux demain matin, avec des gelées fréquentes. L'après-midi, le ciel sera gris sur la moitié nord, mais bien ensoleillé au sud. Les températures maximales, 3 à 6 degrés dans l'est, 6 à 15 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.